Des reportages inédits,
des chroniques fantastiques,
de l'actualité et de la bonne musique.
Bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices, sur Radio Far West.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui avec Jade, Mathéo, Leïla et moi-même pour une toute première émission. Vous avez le droit aujourd'hui à des actualités, des chroniques, de la musique, mais surtout à un reportage signé Jade de l'équipe Far West. Nous allons commencer tout de suite avec les actualités qui seront suivies d'une chronique imaginée et écrite par Leïla, qui sera elle suivie ensuite par le reportage de Jade. Nous vous souhaitons donc une très bonne émission.
Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, nous allons parler politique. Selon Suisse Info, le Parlement n'accorderait pas une grande place aux Suisses de l'étranger, étant en minorité. En effet, les différentes formations politiques s'y intéresseraient beaucoup, mais, pourtant, leurs intérêts ne seraient pas une priorité. Ce samedi à Montreux, lors du 97e congrès des Suisses de l'étranger, Marc Bühlmann aurait affirmé après analyse des votes que sous la coupole fédérale, défendre les intérêts des Suisses de l'étranger ne serait pas une priorité et que la gauche y porterait plus d'importance. Pour vous donner un exemple concret, sur 760 000 Suissesses et Suisses qui vivent à l'étranger, seuls 180 000 seraient inscrits sur les registres sociaux et lors de vote, ils iraient voter dans leur pays d'origine. Leur voix est donc mise sous silence. Selon Marc Bühlmann, les politiciens au congrès de samedi seraient motivés à faire bouger les choses. A voir donc pour la suite. Nous sommes peut-être en route vers une Suisse accordant plus d'importance pour nos étrangers.
En parlant de vote et d'élection, l'argent resterait apparemment tabou dans les campagnes électorales. En effet, Suisse Info a demandé aux 7 principales formations politiques du pays combien investissaient-ils dans la campagne. Ils se sont rendus compte que ceux qui plaçaient le plus d'argent dans la campagne sont aussi ceux qui sont les plus importants. Par exemple, le parti de la droite conservatrice dispose de beaucoup d'argent pour tapisser la Suisse de ses affiches controversées. Au total, 8 millions de francs sortiraient de la poche des partis nationaux. Mais Georges Lutz décréterait que l'argent ne veut pas forcément dire victoire et qu'il faut également avoir un message convaincant et aborder des thèmes qui touchent les gens. Finalement, selon Gianluca Esposito, des initiatives sont prises dans le bon sens. Dans plusieurs cantons, la population aurait clairement montré son soutien pour plus de transparence dans les financements des partis politiques. Cela se finirait donc sur une bonne nouvelle.
Et pour en finir avec l'actualité, dans le canton de Vaud, le petit train rouge du Nyon-Saint-Cergue-la-Cure, que certains gymnasiens de Nyon prennent, se serait pris un tracteur ce mercredi à 14h45. La collision aurait eu lieu à l'arrêt des Pralies. À cet arrêt, il n'y a pas de barrière, et malgré les feux clignotants, le véhicule et le train se sont tout de même percutés, a affirmé Stéphanie Pontius. Le tracteur a été percuté à l'avant gauche de la rame et a été traîné sur une dizaine de mètres. La police a ouvert une enquête pour en savoir plus, mais pour l'instant, les trains entre Saint-Cergue et la Cure sont remplacés par des bus. En ce qui concerne le conducteur, il a été légèrement blessé et rendu rapidement à l'hôpital de Nyon.
Nous allons maintenant passer à la chronique de Leïla.
Alors bienvenue dans la chronique qui va vous apprendre à draguer.
Et qui va vous permettre de rencontrer votre âme sœur.
Ou pas. Franchement, pour arriver jusque-là, il va falloir être patient. Bref, on est ici aujourd'hui pour trier avec vous les conseils de drague qu'on va récolter durant les épisodes de cette chronique. On va commencer cet épisode par les conseils de drague les plus faciles à trouver.
Comment ça, les plus faciles à trouver?
Quand tu cherches à savoir un truc le plus rapidement possible, tu cherches où?
Sur Internet.
Donc voilà où je voulais en venir. Aujourd'hui, on va faire des simples recherches sur Internet pour trouver des conseils de drague qui sont à la portée de tout le monde.
Ok, j'ai compris. Mais du coup, elle sert à quoi ta chronique si tout le monde peut les trouver, ces conseils?
Attends. Déjà là, c'est le premier épisode. Dès le deuxième, tu verras que pas tous les conseils sont aussi faciles à trouver. Et dans chaque épisode, on va retenir un ou deux conseils pour le quatrième et dernier épisode. Je vous laisse deviner ce qui s'y passera. Mais tout de suite, on va commencer. C'est pourquoi on est venu. J'ai mon ordi à côté de moi. C'est parti. T'es prêt?
Toujours.
Parfait. Donc, je vais taper sur Google « Comment draguer ?». On va voir ce qu'on trouve. Bon, ça commence bien. Les premiers résultats concernent seulement la drague sur les filles. On n'a pas le droit de draguer les mecs ou quoi?
On dirait que les mecs ont plus besoin de conseils pour draguer.
Ouais, c'est peut-être ça. Bon, on va déjà voir sur un site qui propose pour les filles. Le site s'appelle « Séduction by Kamal ». Alors, je viens de trouver sur leur site un article qui énonce 3 techniques de séduction diaboliquement efficaces. Bon, on va voir ce que ça donne en lisant la première. La provocation par la déconsidération.
Le titre, on dirait un titre de film d'action.
J'avoue, on dirait trop. Alors, ils nous disent de raconter une anecdote amusante ou une petite histoire séduisante que vous avez vécue dernièrement. Ok, pour l'instant, facile. Ensuite, pendant que vous racontez votre histoire, faites ce qui suit. Arrêtez de parler et dites-lui « Ah, je parie que t'as trouvé quelqu'un... Je parie que tu es quelqu'un qui aime qu'on lui prête beaucoup d'attention. » Ensuite, il faut raconter notre histoire normalement. Et ok, là, je comprends pas trop l'utilité, mais bon, il explique le pourquoi juste après en disant « Quand vous placez cette petite remarque à son propos, puis après vous continuez normalement votre discours, vous allez réveiller une certaine envie et curiosité en elle afin de savoir pourquoi vous lui dites ça. Ah d'accord, je m'attendais pas du tout à ça. Bon, apparemment, habituellement, la personne va nous interrompre. Si elle le fait pas, il faut continuer à faire des remarques sur elle jusqu'à ce qu'elle morde à l'hameçon. Et là, il faut dire « Oula, on t'a jamais appris à ne jamais couper quelqu'un en train de parler ?» Tu vois, je te dis que ça marcherait jamais entre nous. Mais je sais pourquoi tu fais ça, c'est parce que... Non, je te dirai après. Ensuite, il faut continuer l'histoire et ne jamais lui dire le truc qu'on ne lui a pas dit. Donc cela, ça permet donc de créer une certaine tension et renforcer de plus en plus son intérêt. Voilà donc une première technique. Qu'est-ce que t'en penses, Lucas ?
Je sais pas trop, ça a l'air trop facile.
Ouais, je suis un petit peu d'accord. Bon, on continue sur un autre site en précisant, cette fois-ci à Google, que je veux draguer un homme. Alors, comment draguer un homme ? Voilà le site de auféminin.com qui nous propose trois méthodes. La première recommande de draguer à l'ancienne, adopter la lady attitude et respecter la tradition. En gros, ne bougez pas, si un homme vous plaît et si vous souhaitez faire plus ample connaissance, laissez-le venir à vous. La plupart d'entre eux n'apprécient pas que les femmes inversent les rôles. Ah bon, je suis pas du tout d'accord avec celle-là. Déjà, je pense qu'il faut se tenter soi-même si on veut vraiment quelque chose. En plus, c'est quoi cette histoire de rôle ? On se croirait encore à l'époque en lisant ça, je déteste.
Je suis d'accord avec toi. En plus, si on attend toujours que les choses se fassent par elles-mêmes, on n'obtient jamais rien.
Exactement, donc cette méthode next. Passons à la méthode 2, faire parler votre corps pour draguer. On ne s'en rend pas forcément compte, mais nos gestes, notre attitude veulent dire beaucoup et envoient quelques signaux inconscients à nos interlocuteurs. Pourquoi ne pas les utiliser pour draguer ? Bon, je pense que c'est un bon conseil. On procède au fameux eye contact en 3 fois. Un premier coup d'œil furtif, quelques minutes plus tard on recommence, on fait durer un peu plus longtemps et la dernière fois on porte l'estocade finale en soutenant son regard. On ne peut pas être plus clair sans avoir ouvert la bouche. Je pense que celui-là, il est plus applicable.
Oui, il est même un peu banal, je trouve.
Bon, tout ça, c'est des méthodes pour attirer l'attention. Mais qu'est-ce qu'on dit après ? Je veux savoir quelle phrase d'accroche marche à tous les coups. Je vais taper sur Google « phrase d'accroche pour draguer un homme ». Voyons voir ce qu'on trouve. Alors, sur le site comprendrelesommes.com, on trouve les 5 meilleures phrases d'accroche. La première est un classique. On se connaît, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu.
Ah ouais, il faut faire genre qu'on connaît la personne juste pour engager la conversation. Pas trop mal, je trouve.
La deuxième ressemble un peu à la première, c'est « Excusez-moi de vous déranger, mais vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau à quelqu'un que je connais. » Et habituellement, il paraît que la personne répond « Rassure-moi, il est beau au moins. » Oui, pourquoi pas celle-là ? Je pense que tu vas adorer la 5e, Lucas. « Salut, je suis pressée, mais tiens, je te file mon numéro. »
Effectivement, elle est bien. Ça donne un côté humour, mais en même temps hyper efficace si la personne à qui tu as donné ton numéro est curieuse.
Bon, je pense qu'on a eu certains bons conseils, on les garde précisément pour le dernier épisode et on se retrouve dans peu de temps pour le deuxième. En attendant, prenez soin de vous, draguez tout ce qui bouge et détendez-vous en écoutant un morceau de musique intitulé Jalousie par Angèle.
Avec parano, de pas grand chose, mais pourquoi s'entremêler entre lui et moi? C'est plutôt déplacé et frustrant, car jalousie, ton nom est bien trop joli. Ooh.
J'espère que tout va bien pour vous et que votre journée a bien commencé. Le reste de l'équipe Far West et moi, on va parler aujourd'hui d'un sujet sérieux qui m'intriguait beaucoup et sur lequel j'ai donc voulu enquêter. Il concerne beaucoup d'adolescents, majoritairement des adolescentes. Je parle ici des troubles du comportement alimentaire, qu'on appelle aussi les TCA. On va sûrement utiliser ce terme durant le reportage pour éviter de répéter à chaque fois « troubles du comportement alimentaire » et simplifier la chose.
Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va passer une bande-son des commentaires qui ont été faits à Jade sur Instagram, où les questions vont plus se poser la majorité des gens quand on leur parlait d'anorexie et de boulimie. Parce que oui, c'est un sujet complexe dont on parle peu souvent. Tenez-vous bien, selon docrero.ch, les statistiques suisses relèvent que 1 à 2% de la population suisse féminine souffre d'anorexie et 5 à 8% de boulimie. En gros, environ 10% de la population suisse est touchée par les TCA, et ce chiffre n'arrête pas d'augmenter. De plus en plus de femmes et d'hommes souffrent de ces maladies. Il ne faut pas oublier les hommes, mais les femmes restent les plus touchées. Vous allez le comprendre par la suite, et ça explique pourquoi on va parler principalement au féminin durant ce reportage.
À ce que j'ai lu dans le livre « Quand l'alimentation pose problème » de Sophie Vust, il existe beaucoup de TCA, comme le méricisme qui concerne la remastication qu'on appelle aussi la rumination des aliments, l'alimentation sélective ou encore le pica qui concerne l'ingestion de choses non comestibles. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les TCA, les plus connus, et donc vous avez sans aucun doute déjà entendu parler. Et oui, il s'agit bien de l'anorexie et de la boulimie, les deux troubles les plus connus et dont nous allons parler aujourd'hui.
Les TCA sont des maladies mentales, car oui, on ne le répétera jamais assez, mais ce comportement est dû à une maladie et n'est donc pas un choix réfléchi de la part de la malade ou du malade. Ce sont des maladies mentales qui se basent donc beaucoup sur les émotions de la patiente. Effectivement, elles mélangent différents sentiments paradoxalement complètement opposés les uns des autres. D'un côté, le sentiment de contrôler et de plaisir, et de l'autre, le sentiment de dégoût et d'angoisse. Pourquoi ? Comment des sentiments si opposés peuvent être ressentis en adoptant pourtant le même comportement pour chacun des deux ? C'est ce paradoxe que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui, vous et moi, dans ce reportage.
Dans la boulimie, t'es gros ou anorexique ? Qu'est-ce qui amène à une anorexie ou une boulimie ? Je pense que tout est dans le mental, pour n'importe quelle raison. Que ce soit le jugement des autres, la peur ou le refoulement. Pour moi, tu dois avoir un minimum de réflexion et te dire qu'on s'en fout des autres. Le plus important, c'est ta santé. Parce que les autres pensent, ça m'énerve, même... Si je sais que c'est un problème très sérieux. À quel moment on peut dire que t'es anorexique ou boulimique ? C'est quoi la différence entre la boulimie et l'anorexie ? La société valide les corps maigres. C'est ça le problème. Les gens savent pas que le corps humain n'est pas forcément fin. Est-ce qu'on peut s'en sortir et comment ? C'est l'influence des top modèles sur les jeunes. C'est ça.
Donc, qu'est-ce qu'un trouble du comportement alimentaire ? Comme on l'a cité avant, c'est une maladie mentale. Le comportement est donc pas un choix, mais une réponse à ce qui se trame dans la tête des malades. Ces maladies apparaissent souvent à l'adolescence et sont la plupart des fois difficiles à remarquer. Elles sont aussi plus présentes chez la fille à cause de la pression qu'inflige la société sur l'image de la femme.
Justement, la société est un des vecteurs de la maladie comme plein d'autres d'ailleurs. En fait, la société pose un idéal féminin très, très spécifique. Elle loue la minceur et du coup, elle renvoie une image faussée du corps de la femme. Et à cause de ça, la plupart des femmes complexent parce que ça leur crée cette obsession pour la minceur et la perte de poids. Mais on verra pourquoi et comment beaucoup plus en profondeur par la suite.
Les TCA les plus connus sont donc l'anorexie et la boulimie, qui sont d'ailleurs étroitement liées parce que plusieurs malades avouent avoir sauté d'un trouble à un autre ou même les avoir vécu en même temps. Donc qu'est-ce que l'anorexie plus particulièrement ? C'est un trouble qui enlève toute envie de se nourrir jusqu'à atteindre un stade de maigreur critique et qui met la vie de la personne en question en danger. Elle arrête en fait complètement de manger. Une anorexique a un dégoût particulier pour la nourriture. Elle le voit comme un ennemi ou comme quelque chose qui va venir ajouter de l'agresseur dans ses fesses, ses cuisses, ses jambes, tout son corps. Au début, ça commence toujours par une envie de maigrir, donc ça commence souvent par un régime, et puis elle voit leur corps changer, mincir, donc elle se restreint encore plus. Ça arrive aussi que les malades fassent beaucoup d'exercices physiques pour ne pas prendre de poids ou l'utilisation de laxatifs est aussi assez habituelle. Souvent, les malades commencent à vivre à travers ce trouble de comportement alimentaire en s'y accrochant. Elles trouvent des scénarios qu'elles mettent en place, des stratégies finalement pour pas avoir à manger en présence de leur famille, de leurs proches. Et évidemment, vu que notre corps a besoin d'être nourri pour survivre, il arrive que les malades atteignent la mort malgré les soins médicaux.
Effectivement. Et c'est quoi la boulimie du coup ? On la confond de temps en temps avec l'obésité ou tout simplement le fait de beaucoup manger. Mais il faut à tout prix différencier le fait de beaucoup manger, qui est un excès alimentaire, et la boulimie, en fait, qui est un besoin pulsionnel incontrôlable, complètement obsédant, donc vraiment grave, de se remplir. On appelle ça les crises de boulimie. Certaines se lèvent même la nuit, simplement pour manger, pour se remplir le ventre. Les crises sont complètement variables d'une personne à l'autre. Elles peuvent avoir lieu 3 fois par jour, comme 1 fois par mois. Quand elle mange toute cette nourriture, elle ressent un sentiment de soulagement, d'apaisement. Après, ce sentiment de manque rempli d'apaisement vient justement la culpabilité, où elles se font vomir par la peur de grossir, par dégoût de ce qu'elles viennent de faire, de leur corps, pour après en fait refaire la même chose. Tout ça toujours en gardant le secret, car elles savent que leur comportement est anormal. Elles en ont honte et elles veulent que ça reste secret. C'est pour ça qu'elles passent souvent inaperçues, parce que les crises se font pas devant ses proches, à moins que pendant les repas son bourrage se fasse sentir. Tout se passe alors qu'elle est seule. La plupart des malades sont tristes, renfermés, et contrairement aux anorexies qui ont des répercussions physiques qu'on ne peut pas louper comme une extrême maigreur, on voit par leur maladie de manière flagrante, parce que souvent son poids reste stable. Encore une raison pourquoi on perçoit pas leur maladie. C'est pour ça qu'elles sont moins facilement identifiables et que beaucoup de jeunes filles en souffrent sans que personne ne le sache.
J'avoue que je suis passée quand même par une phase d'anorexie entre-temps où je mangeais presque plus rien parce qu'en fait je me sentais beaucoup mieux, je me sentais plus légère, mais au final c'était quand même passé dans l'autre extrême, donc c'était pas forcément sain.
Nous disions justement tout à l'heure que cela arrivait que certaines malades sautent de la boulimie à l'anorexie ou qu'elles les vivent tout simplement en même temps. Je reviens donc sur le fait que les TCA sont donc pas des maladies de la nutrition, mais bien des maladies psychiques, ce qui explique justement déjà brièvement leur liaison. Et par exemple, une anorexique peut très bien ressentir, à force de jeûner et de s'affamer, un besoin pulsionnel incontrôlable de manger et craquer en faisant une crise de boulimie, pour ensuite aller se faire vomir, comme une boulimique qui peut commencer à vouloir perdre du poids et commence alors à s'affamer. Et finalement, la liaison entre les deux troubles est que la relation malsaine avec la nourriture est la même pour l'anorexie comme pour la boulimie, c'est-à-dire que la nourriture est considérée comme une ennemie qui lui fera prendre du poids. Les malades cherchent à éviter à tout prix de prendre du poids, ce qui explique du coup cette relation malsaine qu'elles ont directement avec la nourriture. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. 'Cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. I want you to be happier. I want you to.
And I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Then only for a minute, only for a minute. I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit.
On se retrouve à nouveau à l'antenne après avoir écouté la musique Happier de Marshmello et Bastille. On parlait du coup des TCA, plus spécifiquement de l'anorexie et de la boulimie, donc des TCA les plus connus par le public. C'est bien beau de décrire ces maladies, mais la question est, peut-on les déceler avant qu'il y ait des répercussions physiques? Par exemple, concernant l'anorexie, oui, la patiente devient maigre mais pas en un clin d'œil, et une fois que la maladie est installée, il est souvent un peu tard pour faire un retour express. La maladie est déjà ancrée mentalement dans la vie quotidienne de la jeune fille. Elle a déjà l'habitude de se faire vomir et d'avoir cette relation malsaine avec la nourriture. Concernant la boulimie, physiquement, la maladie est quasi indétectable. Donc est-ce possible de prévenir un TCA? La réponse est non, ou très difficilement. Car comment voulez-vous déceler un trouble chez quelqu'un qui cherche constamment à le cacher et qui le renie en insistant sur le fait qu'elle gère la situation et qu'elle va parfaitement bien? Parce qu'il faut retenir que les crises de boulimie se font en cachette et que l'anorexique trouve des moyens pour que sa famille ne remarque pas qu'elle ne mange pas. Par exemple, en remuant son assiette et en coupant des aliments qui n'atterriront tout simplement jamais dans sa bouche. Les seules choses que peuvent finalement remarquer la famille, c'est la perte de poids, le manque d'appétit de la jeune fille, et pour les boulimiques, le manque de nourriture dans les placards à cause des crises, où ils consomment jusqu'à des kilos de nourriture si celles-ci sont très fréquentes. Il n'existe du coup aucun symptôme, mis à part aller à l'hôpital ou tout simplement chez un spécialiste, où celui-ci va vous citer des critères de diagnostic pour déceler si votre fille est bien anorexique ou non. Par exemple, une peur intense de devenir obèse qui ne diminue pas avec la perte du poids, donc le fait que la jeune fille n'est jamais satisfaite de son poids, une perturbation de l'image du corps, donc celle-ci ne voit pas son corps comme il l'est réellement. Pour elle, son corps est toujours plus gros, trop gros. Une perte de poids d'au moins 25% du poids initial, un refus de maintenir un poids supérieur au poids minimal normal pour l'âge et la taille, et une aménorrhée, qui est une perte des règles chez les femmes. Pour la boulimie, ce sera une envie intense de se suralimenter, donc traduite par des crises, une fuite de la prise de poids au moyen des vomissements et laxatifs, ou encore une peur morbide de devenir gros.
Il faut en effet retenir que les TCA sont des maladies qui touchent au psychique, et pas juste des maladies de nutrition. Ce ne sont pas des maladies qu'on attrape, hein, j'ai déjà entendu ça, mais qui se passent dans les fins fonds de notre cerveau, qui sont enclenchées par quelque chose comme par exemple une déception amoureuse, un décès, ou simplement l'envie de perdre du poids, commençant par un régime. C'est finalement des maladies engendrées par la pauvre estime de soi et non des maladies qu'on attrape comme un virus. Parce que pour certains, ça paraît logique, mais je peux vous jurer que j'ai déjà entendu ce genre de commentaires. Et à retenir que les malades ne sont presque jamais conscientes du fait qu'elles sont malades. D'ailleurs, le chemin de la guérison commence principalement par la prise de conscience et surtout qu'elles se rendent compte qu'elles ont besoin d'aide.
c'était une période où j'étais pas bien dans ma peau. J'arrivais pas à gérer les choses, en fait, j'accumulais. Et en fait, je rentrais chez moi et à répétition, je rentrais chez moi et je mangeais genre énormément, genre tout ce qu'il y avait dans le placard, alors que j'avais pas forcément faim. C'était vraiment une compensation en fait affective, comme si tu comblais un vide en fait et que j'arrivais pas à le gérer, du coup je le comblais de cette manière.
On pourrait se dire que oui, pour l'anorexique, la perte de poids peut être destructrice au niveau mental et physique. Mais on pense souvent que les vomissements de la boulimique n'ont pas de répercussions physiques. Et pourtant, si les crises et les vomissements sont incessants, les conséquences physiques sont bien présentes. Je parle ici des répercussions comme un visage bouffi dû à la malnutrition, excusez-moi, des yeux injectés de sang à cause de la violence des vomissements, des maux de gorge et un enrouement de la voix, une érosion de l'émail due aux vomissements incessants ou encore une déshydratation due au laxatif qui peut être utilisé. Et j'en passe. Pour le mental, c'est un vrai calvaire. Étant donné que la malade vit sa maladie dans le secret et qu'elle fait tout pour que personne ne soit au courant, personne ne vient à son aide. Alors, elle souffre seule et la solitude de la maladie la bouffe de l'intérieur à petit feu. Comme je l'ai dit avant, elles ont une estime d'elle très très basse. Imaginez donc 30 secondes ce que peut être de supporter une douleur comme celle-là avec une si mauvaise estime de soi et surtout tout ça seule. C'est destructeur et plus le temps passe, plus la douleur est atroce à supporter. Certaines se raccrochent alors à des choses superficielles, comme le fait de se couper. Petit rappel, un adolescent qui se coupe ne veut pas forcément en finir. Il ne faut pas confondre le fait de se couper avec une tentative de suicide. Les adolescents qui se coupent régulièrement cherchent à remplacer la douleur mentale par la douleur physique. C'est ce qui arrive la plupart des fois. Les jeunes filles ne supportent plus leur douleur mentale devenue insupportable et préfèrent alors se couper et transformer cette douleur mentale en douleur physique. J'ai maintenant reçu un témoignage d'une jeune fille qui me disait qu'une de ses amies s'était coupée les ongles en pointe pour s'arracher la peau parce que ses parents lui avaient caché tous les objets coupants qu'elle aurait pu utiliser pour se faire mal. Ne prenez pas ces enfants pour des fous. Oui, ce genre d'action peut vous choquer, voire vous dégoûter. Mais lorsque la douleur mentale devient atroce, l'humain se démène comme il le peut. Certains ont même des idées noires qui apparaissent et vont jusqu'à la tentative de suicide.
Ouais, je sais, ça peut être choquant. Et maintenant, pour parler des anorexiques, un sujet un peu plus connu, parce que oui, vous avez sûrement déjà vu des photos de corps d'une anorexique, une maigreur morbide qui donne l'impression d'être devant un cadavre. Oui, les mots sont crus, mais je ne fais que citer les mots que j'ai le plus entendus. La peau sur les os, un teint gris, blanchâtre, voici l'image que vous recevez lorsque je vous dis anorexie. Mais est-ce qu'on vous a déjà parlé de sécheresse de la peau, d'intolérance au froid, de troubles endocriniens, de troubles de la croissance, d'aménorrhée, qui est une perte de règles? Très certainement non, mais il en reste encore une longue liste. La plupart sont réversibles, sauf les troubles de la croissance qui peuvent être définitifs. Et tout ça est sans compter le nombre de morts dues à une perte de poids très importante. Selon les études, sur 129 anorexiques, 7% sont mortes dues à un trouble cardiaque. Ah oui, mais la scolarité en prend aussi un coup. Parce que le corps ne suit pas, la jeune fille n'arrive plus à se concentrer en cours, à cause des difficultés de concentration et de mémoire qu'engendrait sa malnutrition. Et concernant les perturbations mentales, la jeune fille tombe souvent en dépression à cause de l'isolement social qu'elle s'impose à elle-même. Les comportements de l'anorexique rejoignent souvent ceux de la boulimique pour les mêmes raisons. Une mauvaise estime d'elle-même, on parle aussi souvent d'exigence de perfectionnisme. À leurs yeux, elles sont jamais assez bien. Ce qui justifie en fait le fait qu'elles ne se voient jamais assez minces et toujours trop grosses. On parle ici de distorsion d'image de leur propre corps. Elles savent, elles voient leur perte de poids, hein. Mais ça, il ne faut pas en douter, mais dans leur tête, c'est juste jamais assez suffisant.
Donc, pour faire le point au niveau des répercussions physiques et mentales, oui, les répercussions physiques sont importantes. C'est d'ailleurs ce que les médecins cherchent à soigner en premier cas, dans des situations extrêmes. Parce qu'évidemment, ils ne vont jamais laisser mourir de faim leurs patientes. Le problème étant que les répercussions mentales sont elles aussi très présentes et on les oublie trop souvent, ce qui est notre plus grande erreur. Car oui, c'est la première chose sur laquelle nous devrions nous focaliser. On vous expliquera plus en détail pourquoi par la suite.
I don't see you, you're not in every window I look through. And I don't miss you, you're not in every single thing I do. I don't think we're meant to be, and you are not the missing piece. I won't hear it whenever anybody says your name. And I won't feel it
even when I'm bursting into flames. I don't regret the day I left. I don't believe that I was blessed. I'm probably lying to myself again. I'm alone in my head, looking for love in a stranger's bed. But I don't think I'll find it, 'cause only you could fill this empty space. I wanna tell all my friends, but I don't think they would understand. It's something I've decided, 'cause only you could fill this empty space.
Space de James Arthur. On va maintenant écouter le témoignage touchant d'une jeune fille de 17 ans qui a souffert de boulimie pendant plusieurs années. On a déjà entendu sa voix durant le reportage, mais nous allons maintenant écouter son touchant témoignage dans son entièreté. Cette jeune fille désire rester anonyme. On va donc respecter ce choix et on ne citera pas donc pas son nom ni son prénom.
Alors, quand j'ai commencé à y penser, je pense que c'était parce que déjà je devais avoir, je pense, 12 ans, quelque chose comme ça. Et parce que j'avais vu ça dans des séries télé et tout, enfin voilà. Tu vois, genre à la télé, tu vois par exemple des trucs genre Skins, tu vois les meufs qui sont vomir et tout. Enfin bref, c'est quelque chose, je savais que ça existait. Puis après, j'ai vu comment elle faisait. Mais au début, ça restait quelque chose de très lointain dans ma tête. Et puis dans cette période, quand j'avais à peu près 12 ans, c'était une période où j'étais pas bien dans ma peau. Et puis je rentrais chez moi, ça allait pas trop à l'école, enfin ça allait bien, mais je pense que j'avais tendance à faire un rejet genre de toutes mes émotions. J'arrivais pas à gérer les choses, en fait j'accumulais. Et en fait je rentrais chez moi et à répétition je rentrais chez moi et je mangeais genre énormément, genre tout ce qu'il y avait dans le placard, alors que j'avais pas forcément faim. C'était vraiment une compensation en fait affective, comme si tu comblais un vide en fait, et que j'arrivais pas à le gérer, du coup je le comblais de cette manière. Du coup, ça m'est arrivé beaucoup de fois de faire ça sans me faire vomir parce que j'avais pas encore vraiment pris ça en considération. Et en fait, tu commences à rentrer dans un cercle vicieux où tu fais ça et tu penses que t'as besoin de ça et que, en fait, pas que t'as besoin de ça, mais tu penses que t'es pas capable de faire autrement. Genre, je pensais que j'étais pas capable de rentrer chez moi et de pas me goinfrer comme ça, tu vois. Et du coup, en même temps, t'as ce cercle vicieux où t'as besoin de combler ce manque, et en même temps, tu te convaincs que tu peux pas en sortir. Et puis, un jour, en même temps, ça me saoulait parce que j'étais pas bien dans ma peau, je me trouvais grosse et tout. Et plus tu te dis, oh, je suis grosse, plus tu commences à manger, tu te dis, de toute façon, j'ai rien à perdre parce que de toute façon, je suis déjà moche, tu vois, un truc comme ça. C'est cette mentalité dans laquelle tu rentres. Et du coup, un jour, je savais que je pouvais me faire vomir, je savais qu'il y avait cette possibilité. Et du coup, un jour, je l'ai fait. Et puis après c'est vrai qu'après t'être fait vomir, c'était vraiment soulageant en fait, parce que j'avais l'impression de d'avoir pu me nettoyer de tout le mal que je m'étais fait, même si ça me faisait encore plus de mal. Mais tu vois, c'est comme si tant que je me faisais pas vomir, je finissais pas cette crise, parce que j'avais besoin de pouvoir évacuer pour passer à autre chose. Et du coup voilà, c'est comme ça, c'est arrivé une première fois et après j'ai commencé à sentir la facilité, enfin pas forcément la facilité, mais c'est devenu un mécanisme en fait. C'était difficile, ça s'est fait en plusieurs fois, plusieurs années. Déjà je pense que ça demande de grandir, de prendre confiance en soi, de prendre du recul et de la distance surtout, de se dire, parce qu'en fait quand tu rentres dans ce mécanisme, t'as l'impression que c'est la seule solution. Que tu peux pas t'en sortir autrement, que tu peux pas trouver de... Parce que c'est pas comme si j'avais d'énormes problèmes, mais c'est juste un mal-être dans lequel tu t'enfermes en fait. Et donc je pense que j'ai eu besoin de prendre en maturité, de découvrir d'autres horizons, d'autres manières de faire, et puis de me responsabiliser aussi, de réussir en fait à gérer mes problèmes et pas les procrastiner, parce que la procrastination ça menait aussi à la boulimie. Je pense que c'est ça que j'ai eu besoin de faire aussi, c'est apprendre à m'aimer un peu plus, à me donner plus d'amour. Bon, j'avoue que je suis passée quand même par une phase d'anorexie entre-temps, où je mangeais presque plus rien, parce qu'en fait je me sentais beaucoup mieux, je me sentais plus légère, mais au final c'était quand même passé dans l'autre extrême, donc c'était pas forcément sain. Et puis il a fallu que je trouve un équilibre, je me suis fait aider aussi, mais je t'avouerai que les psychologues que j'ai eus, c'est pas vraiment ça qui m'a aidée, parce que c'est des gens qui restent quand même très extérieurs à ce que tu vis. Et bon, ça dépend des personnes, mais moi j'arrivais pas forcément à m'ouvrir à elles. Et c'était vraiment dans ma mentalité que j'ai dû trouver la porte de secours. Bon, après j'ai fait des nouvelles rencontres, j'ai changé aussi un peu d'environnement, ça m'a aidée. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas une solution surtout. Que ça m'aiderait pas de réagir comme ça, parce que la chose qu'il fallait que je fasse, c'est me donner de l'amour et pas me dégoûter comme ça.
Merci à Tristan Langrin pour son morceau Time of Solitude, qui nous a servi de fond musical pour ce témoignage touchant. Et merci à cette jeune fille, surtout pour sa force et son courage de s'être ainsi livrée à nous. Grâce à elle, on a un exemple concret et on comprend mieux le comportement d'une jeune fille souffrant de TCA. On aura bien compris cette vague d'émotions que la jeune fille peine elle-même à comprendre et qui l'engouffre dans ce cercle vicieux qu'est la maladie, et à quel point il est dur pour elle d'en sortir. Et malheureusement, la première partie de notre reportage touche presque à sa fin.
Et oui, malheureusement, on va devoir doucement conclure nos propos. Donc finalement, on pourrait en tirer quoi de nos informations pour l'instant ? Vous avez déjà l'aspect extérieur, l'aspect général de ces maladies en ce qui concerne les risques, s'il y a des symptômes et tout ça, mais surtout, vous avez pu vous rendre compte que ces maladies ne sont pas juste une question de poids ou de minceur, mais quelque chose de bien plus profond qui dépasse le matérialisme.
Ouais, justement, ces maladies concernent principalement le psychique. C'est pour ça qu'on va approfondir ce côté-là et détailler ce qu'il se passe dans la tête d'une boulimique et d'une anorexique dans notre deuxième partie, afin qu'on puisse bien encore avancer notre enquête et peut-être comprendre pourquoi il existe ce fameux paradoxe, les TCA, à la fois sentiment de contrôle et d'angoisse.
On espère avoir à nouveau votre attention dans la deuxième partie. Sur ce, on va écouter « If I Can Have You » de Shawn Mendes.
It's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? I'm in Toronto and I got this view, but I might as well be in a hotel room. Yeah, it doesn't matter cause I'm so consumed, spending all my nights reading texts from you. I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? Can't have
I'm so sorry that my timing's off, but I can't move on if we're still gonna talk. Is it wrong for me to not want half? I want all of you, all the strings attached. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. I can't write one song that's not about you. Can't drink get you, but I hold on. Everything means nothing. Everything means nothing, babe. I'm trying to move on.
La première fois que j'ai avorté, j'avais 30 ans. Je sortais d'une relation très forte et je me suis fait larguer brutalement. J'étais complètement perdue, comme déconnectée de moi-même. J'ai eu dans la foulée une relation avec un homme qui a duré 2 mois. Une histoire pas très sérieuse, pardon. Et ni l'un ni l'autre ne s'était préoccupé de contraception. J'ai découvert en fait que j'étais enceinte alors que j'étais en vacances. J'arrêtais pas de manger, j'avais pris 3 kilos en 2 semaines. J'ai peu de souvenirs du déroulement de l'avortement. Je me souviens m'être retrouvée à la clinique près de chez moi, à l'époque en région parisienne. J'ai eu un premier rendez-vous, une échographie. Je suis ressortie avec une petite photo du fœtus en ventre. Déchirant. J'avais un délai de réflexion de séjour. Quand j'y suis retournée, on m'a donné un médicament. Je suis retournée chez moi et j'ai ainsi avorté. En me vidant toute l'année. C'était très douloureux. J'étais seule. J'en avais parlé à personne. C'était honteux. J'ai longtemps gardé cette photo de l'échographie. Et je l'ai beaucoup regardée en pleurant. Mon deuxième avortement date d'il y a quelques mois. Je sortais d'une séparation après 10 ans de vie commune et 2 enfants. J'avais besoin de sortir de mon rôle de mère. J'ai fait des rencontres via Meetix, je sais plus comment on dit, un site de rencontre. J'ai utilisé des préservatifs, puis j'ai eu une pilule, mais qui ne m'a pas convenu. Et j'ai pratiqué la méthode naturelle en fonction de mes cycles. Sauf que c'était une période de grande fatigue et je me suis perdue dans mes propres cycles. J'ai fait n'importe quoi. En avril, je me suis rendu compte que j'étais enceinte de l'homme qui était mon partenaire depuis quelques mois. Je vomissais sans arrêt. J'en ai parlé à mes proches, je suis allée faire un test dans un labo. Mais quand j'ai eu les résultats pendant 1 semaine, j'ai menti à tout le monde. J'ai dit que je n'étais pas enceinte, alors que je l'étais. Trop de honte, encore. Je m'en voulais beaucoup. Je suis pourtant instruite. J'ai 40 ans. Je trouvais insensé de me retrouver à nouveau dans cette situation. Je me suis demandé si j'allais garder cet enfant. Mais toute seule avec mes 2 enfants, il était inenvisageable pour moi de l'accueillir. Je savais que le père n'était pas l'homme de ma vie. Je venais déjà d'imposer une séparation à mes enfants. J'avais besoin de me reconstruire. Et il y avait aussi des enjeux matériels. J'ai pris la décision d'avorter. C'était une période de vacances, donc les disponibilités étaient réduites et les délais assez courts. J'ai été rendue vers l'hôpital. C'était à nouveau un avortement médicamenteux. C'était mon souhait. Le personnel a été très bien, très gentil. Je l'ai pas eu à me justifier. Au moment de l'échographie, je leur ai tout de suite dit que je ne voulais ni l'image ni le son, surtout pas des petits battements de cœur comme la première fois. Il m'a répondu que c'était de toute façon hors de question, sauf si j'en avais formulé la demande. Il m'a prescrit des antidouleurs que j'ai pris sans hésiter le jour de l'avortement. J'ai pris le médicament chez moi un jour où j'étais disponible. Mon partenaire a été présent. Psychologiquement, c'est vraiment compliqué, très culpabilisant. Beaucoup de gens disent que ce n'est pas un début de vie, mais... Malgré tout, moi, j'ai eu le sentiment de décider de la vie de quelqu'un. Depuis, je porte un stérilet. Aujourd'hui, j'en parle plus facilement. Je ne veux plus avoir honte. L'avortement est un droit important. C'est un choix.
Malgré sa légalité dans quasi toute l'Europe, l'avortement reste encore un sujet tabou. Lorsque vous envisagez l'avortement, des regards mal placés sont posés sur vous, voire des commentaires jugeants. La raison, la religion, les principes, Des commentaires comme « tu décides quand même de la mort de quelqu'un, d'un être humain ». Face à de tels commentaires, les femmes se sentent coupables et n'osent pas, et donc pas en parler. Des jeunes adolescentes font face à cette décision sans le soutien de leurs parents et de leurs amis. Là serait alors la nécessité d'en enlever le tabou. On remercie mademoiselle.com pour ce beau témoignage nous permettant de vous partager cette expérience touchante. Donc, merci de nous avoir écoutés. C'était Radio Far West, animé par Mathéo, Jade, Leïla et moi-même. On espère vous retrouver la semaine prochaine. Et sur ce, passez tous une agréable soirée.
Des reportages inédits,
des chroniques fantastiques,
de l'actualité et de la bonne musique.
Bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices, sur Radio Far West.